Radio France Internationale, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. À Paris, il est 21h.
Adrien Delgrange.
19h, temps universel, à la une de cette édition internationale. Tout d'abord, cette décision de justice en France qui concerne Bachar el-Assad. La justice valide le mandat d'arrêt français visant le président syrien. Au Kenya, face aux manifestations meurtrières, le président kényan décide de faire marche arrière. William Ruto retire un projet de loi qui a mis le feu au pays. Julian Assange est libre. Le fondateur de Wikileaks est rentré en Australie aujourd'hui, son pays d'origine, pour profiter de sa liberté retrouvée. En Haïti, au lendemain de l'arrivée des policiers kényans à Port-au-Prince, nous nous pencherons sur leur mission avec Marine Le Bègue. Et puis nous parlerons sport avec Antoine Grenier. Comme un air de revanche de la demi-finale du Mondial 2018, en football, 6 ans plus tard à l'Euro, la France affrontera la Belgique en 8e de finale lundi prochain. Si Bachar el-Assad avait l'idée de venir en France, il serait arrêté et jugé. La cour d'appel de Paris a validé aujourd'hui le mandat d'arrêt visant le président syrien. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques meurtrières d'août 2013 contre des civils à Damas, imputés au régime. Une décision historique, salue Mazen Darwish. Il est président de l'ONG syrienne SCM, le Centre syrien pour les médias, et par ailleurs partie civile dans ce procès.
Pour être honnête, j'avais de l'espoir, mais pas un espoir immense. Cela relève du miracle pour moi. J'ai même plusieurs fois demandé à mes avocates, c'est bien vrai, c'est bien la décision de la Cour ? Même si pour nous, cette décision est logique, éthique et fondée légalement, on savait bien que ce n'était pas la première fois que cette question d'immunité était posée et qu'elle suscite de vifs débats depuis des années. Donc, obtenir cette décision, c'est une immense victoire pour toutes les victimes, pas seulement les victimes syriennes. C'est un message envoyé à tous les dictateurs, pas uniquement à Bachar al-Assad, mais à tous les criminels de guerre partout dans le monde. Ils savent ce que cela veut dire, que c'est un nouveau chapitre de l'histoire qui s'ouvre. Ce n'est pas une fin, mais un début, y compris contre Bachar el-Assad, le combat continue. We will keep
fighting. Le parquet peut encore se pourvoir en cassation, mais en l'état, cette décision ouvre la voie à un procès en France contre Bachar el-Assad, qu'il soit arrêté ou non grâce à ce mandat. Après avoir écouté attentivement le peuple kényan qui a dit haut et fort qu'il ne voulait de ce projet de loi de finances, je m'incline. Déclaration de William Ruto. Cet après-midi, le président kényan retire son projet de loi qui prévoyait des hausses de taxes au lendemain d'une journée de manifestation particulièrement violente à travers tout le pays. Au moins 22 personnes sont mortes. Il est 15h04 à Port-au-Prince. En Haïti, les premiers policiers kényans venus prêter main forte aux policiers haïtiens sont arrivés hier. Leur avion en provenance du Kenya s'est posé dans l'après-midi à l'aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince. À son bord, un premier contingent de 200 policiers armés, 200 hommes arrivés directement du Kenya pour aider la police nationale haïtienne à tenir tête aux gangs. Marine Le Bègue, comment se présente cette mission ?
Pour l'instant, impossible d'imaginer la forme que va prendre cette force. Nous ne sommes qu'au jour 1 d'une mission qui doit durer un an, selon la résolution approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Hier, le Premier ministre haïtien Gary Conny a accueilli l'arrivée du premier contingent avec soulagement. Il a salué, pendant une conférence de presse, je cite, « une opportunité unique pour rétablir la sécurité dans le pays », mais Gary Conny n'a apporté aucune précision sur le plan de la mission. Le flou reste donc de mise. Alors, selon certains experts haïtiens en sécurité, il est urgent d'attendre que la force soit entièrement réunie en Haïti. Avant d'envisager une quelconque opération de terrain, le Kenya avait proposé d'envoyer 1 millier d'hommes avec des soutiens logistiques. Un nouveau contingent doit arriver jeudi pour grossir les rangs des 200 premiers arrivés hier. Et ce n'est pas tout. Le Bénin, le Tchad, les Bahamas, la Barbade et le Bangladesh se sont eux aussi engagés à alimenter cette mission multinationale d'appui à la sécurité. Mais pour le moment, aucune nouvelle de ces pays.
Le point levé en signe de victoire, la fin d'un calvaire pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks est rentré en Australie grâce à un accord trouvé avec la justice américaine. Il a posé le pied en Australie. Dans la journée, il est arrivé à l'aéroport de Canberra. Julian Assange accueilli par ses proches, dont son père et sa femme Stella. Aux États-Unis, une victoire pour l'administration Biden devant la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays, à majorité conservatrice, rejette une demande pour limiter les interventions de l'État auprès des réseaux sociaux, comme par exemple obtenir le retrait de contenu, notamment en matière sanitaire. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Faciliter la désinformation au nom de la liberté d'expression, c'était en quelque sorte ce que les plaignants demandaient à la justice. Des plaignants politiquement marqués, puisqu'il s'agissait notamment des États républicains de Louisiane et du Missouri. Pour eux, quand l'administration Biden discute avec les plateformes de médias sociaux, de publications qu'elle juge problématiques sur la santé publique, et notamment les vaccins contre le Covid, ou sur le déni électoral, c'est tout simplement de la censure. Pour une fois, trois juges conservateurs se joignent aux trois libéraux s'ils donnent raison à l'administration Biden, qui va donc pouvoir continuer à échanger avec les Facebook et autres YouTube, c'est uniquement parce que les plaignants n'ont pas été directement victimes de la suppression de publications par les géants de l'Internet et parce qu'ils ne sont pas en mesure de prouver que ces décisions de modération prises par des entreprises privées sont à attribuer à des pressions gouvernementales. Pour le reste, le sujet du premier amendement et de la liberté d'expression est soigneusement évité. C'est ce que font remarquer trois juges conservateurs dans un texte séparé. Ils estiment que c'était l'occasion de trancher sur un sujet qui revient souvent et qui a toutes les chances de revenir devant la Cour. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Au Royaume-Uni, nous sommes à une semaine des élections législatives et cet ultime duel télévisé ce soir avant le scrutin entre le Premier ministre sortant, Rishi Sunak, et celui à qui tous les sondages prédisent une victoire écrasante le 4 juillet prochain, le travailliste Keir Starmer. Nathanaël Vitran, les conservateurs au pouvoir depuis 14 ans, peinent à assumer un bilan économique particulièrement morose.
Comme dans beaucoup de pays, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Britanniques. L'inflation, c'est vrai, est retombée à 2% le mois dernier, mais après 3 ans où l'augmentation des prix a dépassé tous les records des 40 dernières années. Alors Rishi Sunak en est réduit à agiter le chiffon rouge d'une hausse des impôts si les travaillistes reviennent aux affaires.
Notre plan fonctionne. Je sais que les gens commencent à peine à en sentir les bénéfices, mais l'inflation est de retour à la normale. Les salaires augmentent et nous sommes en train de baisser les impôts. Keir Starmer, lui, veut augmenter vos impôts de 2000 livres sterling.
Crédité d'une avance considérable, Keir Starmer ne veut prendre aucun risque et cherche avant tout à rassurer, à faire sérieux.
Nous n'augmenterons pas l'impôt sur le revenu ni les cotisations sur la sécurité sociale et nous n'augmenterons pas la TVA. Je m'y engage. La création de richesse est notre priorité numéro un. Il n'y a pas de lapin sorti du chapeau. Je suis candidat pour devenir Premier ministre, pas directeur de cirque.
Dans ce contexte électoral, l'Institut d'études fiscales, un centre de recherche indépendant, dresse cette semaine un tableau très sombre de l'état de l'économie et des finances britannique. La dette a explosé et malgré des dépenses publiques en forte hausse, les services publics sont à l'agonie. Bref, des décisions difficiles attendent le vainqueur du 4 juillet.
Et à 5 jours du scrutin, cette fois-ci en France, les Français de l'étranger votent déjà. Ils sont 250 000 Français à avoir déjà glissé en quelque sorte leur bulletin dans l'urne de manière numérique. L'heure de retrouver Antoine Grenier en Allemagne. Vous suivez l'Euro de football. Antoine Grenier, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Pour nous parler d'une vieille connaissance, la France affrontera la Belgique en 8e de finale lundi prochain.
Et rien de moins que la réédition de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 et celle de la Ligue des Nations en 2021, toutes les deux remportées par les Bleus. Surtout ce 8e de finale sera un choc entre deux grosses écuries qui cherchent toujours leur carburation idéale. Les Belges 2e de leur groupe E après un nul 0-0 face à l'Ukraine. Des Ukrainiens qui au passage deviennent la toute première équipe éliminée d'un Euro alors qu'elle a marqué 4 points. C'est dire à quel point le groupe des Belges aura été incertain. Une Belgique qui s'en sort grâce à sa victoire de la deuxième journée face à la Roumanie et qui, si elle a dominé son troisième match, a bien failli se faire punir à un quart d'heure de la fin sur un corner direct audacieux, repoussé sur sa ligne par Koen Castels, le portier des Diables Rouges. Un Belgique-France lundi, donc, à Düsseldorf, qui mettra aux prises 2 nations en manque de confiance offensive. Belges comme Français n'ont inscrit que 2 buts lors de la phase de groupe. Une attaque en panne, alors que les Diables Rouges comptent en leur rang Romelu Lukaku, 13 fois buteur avec l'AS Rome cette saison. Kevin De Bruyne, déclencheur offensif de Manchester City, son coéquipier en club,
Jérémy Doku ou encore Leandro Trossard qui sort d'une grosse saison avec Arsenal. Mais malgré ses armes offensives, les joueurs de Domenico Tedesco peinent à se montrer réellement dangereux et comptent sur leur défense qui n'a encaissé qu'un but lors de cette Euro, exactement comme l'équipe de France. Encore un point commun.
Antoine Grenier pour nous faire vivre cette Euro 2024. RFI à Paris, il va être 21h10, l'heure de retrouver Accent d'Europe.